Le Village historique acadien vous présente la chronique Dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Bonjour Philippe.
Bonjour Sandra.
On va parler du 11 novembre aujourd'hui. Vous allez nous parler de quelques personnes aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Donc, notre chronique, la semaine prochaine, le 11 novembre, sera déjà passé, le jour du souvenir. Mm-hmm. Fait que, on va en parler aujourd'hui, donc c'est le mardi prochain. Et puis moi, parmi les activités que je fais, je vais aller à l'école de Chipagan faire des présentations sur ce sujet-là. Je me suis dit, tiens, je pourrais en parler cette semaine.
Donc. Ben oui.
Fait que j'ai parlé d'un ancien qui a combattu durant la première... Je pense que toutes les personnes que je vais parler, c'est toute la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Puis, j'avais pas fait de chronique, je m'avais trompé d'année, là, je dois dire. L'année dernière, en 2024, c'était le 100e anniversaire de l'aviation canadienne parce que entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'aviation canadienne, ce qu'on appelle l'ARC, va être créée parce que la Première Guerre mondiale, il y a des compagnies qui fabriquent des avions, puis il y a comme une sorte d'aviation corps, puis ça qui existe, mais pas l'aviation telle qu'elle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connue durant la Seconde Guerre mondiale, puis les différentes services qu'ils ont offerts durant la dernière centaine d'années. Là.
Oui.
Fait que parmi les biographies que j'ai pu trouver, on a celui de Francis Roy, qui était originaire de Caraquet, mais qui a participé dans la Première Guerre mondiale à deux reprises. Lui va aller sur le front, puis après ça, il va se faire blesser, il va revenir, puis après ça, il va devenir aviateur. Fait que lui va faire ses études au collège puis au couvent de Caraquet, parce qu'à l'époque, le couvent puis le collège existaient.
Mm-hmm.
Puis après ça, quand il y aura comme dans la fin vingtaine, il va s'enrôler au corps expéditionnaire canadien. Il va y aller à Regina, Saskatchewan. Il va aller là au mois de août 1915, c'est ça. Et puis, il va faire partie d'un bataillon. Il va avoir le métier d'armurier. Puis, il va se rendre en Angleterre. Et en Angleterre, il va se rendre assez rapidement sur le front en France parce que ça, c'est au mois d'août. Puis déjà, au mois de septembre, il a déjà traversé. Là. Fait que, il va se faire blesser durant les batailles en France en 1915 ou en 1916. Je ne sais pas si c'est laquelle des batailles où est-ce qu'il se fait blesser, mais il y en a beaucoup. Là.
Oui.
Dans la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de soldats qui se font blesser. Puis en 1915, on a la campagne de la bataille de Champagne, la bataille d'Artois. En 1916, évidemment, on a Verdun puis la Somme qui était très grande bataille, parce que plusieurs centaines de milliers de soldats meurent ou sont perdus ou sont blessés.
Okay, oui.
Alors, lui, il va se faire blesser dans une de ces batailles-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais il va être rapatrié au Canada. Puis, la blessure est assez sévère parce qu'il va se faire licencier de l'armée. Fait que là, il est licencié à Québec, mais il ne se décourage pas. Il dit « je vais re-rentrer dans les forces canadiennes ». Fait que là, il se rend dans l'Ouest canadien, puis il s'enroule dans le Royal Flying Corps, qui est comme l'ancêtre ou ce qu'était l'aviation canadienne. Là. Fait que lui, c'est un des rares qui, la région, là, tout le nord du Nouveau-Brunswick, nord-est, là, qui va être comme un pilote d'avion durant la Première Guerre mondiale. Il n'aura pas le temps d'aller traverser, faire du combat en France, mais il y a beaucoup de Canadiens qui l'ont fait. Lui, il va faire de l'entraînement dans l'Ouest canadien. On fait l'entraînement dans l'Ouest canadien parce que c'est loin du front, puis on en fait moins en Angleterre parce qu'on a peur que qu'on soit attaqué ou qu'il y a des espions ou des choses comme ça.
Mm-hmm.
Fait qu'on trouve que c'est trop dangereux. Fait que l'Ouest canadien, c'est là qu'on installe ça. Lui, il vole, il y a un Curtiss JN4 que les gens de la Première Guerre mondiale vont souvent piloter. Là. C'est aux États-Unis, puis même ici, on surnomme ça le Jenny, là, qui est un type d'avion.
Oui, oui.
Ça ressemble beaucoup à ce que Saint-Exupéry conduisait là, dans les années 20. Là.
Ah, si ça me donne une idée, oui, 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 oui.
C'est un avion avec deux sets de
d'hélices.
Oui, d'hélices. Bon, pas d'hélices, les affaires, en tout cas, c'est en bois. Puis, il y en a un au Smithsonian Museum à Washington. Là. Quand la guerre a terminé, le musée a acheté une copie, puis elle est comme intacte au musée. Là. C'est comme fait en partie en bois, ça. Là. Puis après la guerre, ben, ces avions-là vont servir au service postal, d'où Saint-Exupéry faisait ça, la livraison postale là, de France, puis en Afrique du Nord. Puis,
OK, oui, oui.
J'ai
googlé une photo pour voir à quoi ça ressemble. Oui, oui, OK. Je comprends ce que vous voulez dire.
C'est ça. Fait que lui, à la fin de la guerre, en 1918, il prend le bateau pour aller en Europe pour combattre, pour être pilote. Puis c'est sur le bateau qu'il va apprendre que l'armistice est signé. Fait qu'ils n'auront pas besoin ils n'auront même pas le temps de traverser de l'autre côté que c'est terminé la guerre. Là. Fait que lui, après la guerre, ben, il va épouser une madame, là, il va épouser la fille d'un comte de français, puis il va aller s'établir dans l'Ouest canadien. Il va avoir trois enfants dans l'Ouest canadien. Durant la Seconde Guerre mondiale, il va s'enrôler également, mais probablement qu'il est rendu trop âgé, là, fait que là, ils l'enverront pas sur le front, mais il va devenir gardien de prison pour des. À l'époque, là, la Seconde Guerre, là, il emprisonnait des Allemands, là, étant donné que. On n'était pas sûr de quel côté ils allaient être. Là. Le gouvernement canadien avait emprisonné des Allemands ou des prisonniers de guerre, je ne sais plus trop. Puis il était gardien de ces prisons-là. Donc, lui, il est décédé à Vancouver dans les années 60. C'est un peu ça, sa vie à lui. Là. Mm. Puis le côté de l'aviation, ben, elle va être formée un petit peu après son passage à lui en tant qu'aviateur, donc en 1924. Puis, c'est ça, l'aviation royale est formée dans ce temps-là. Ça a pris plusieurs années après la Première Guerre mondiale. Parce que les politiciens, puis ce qui est l'armée, puis tout ça, on dirait que les avions, c'était nouveau, puis on n'était pas certain que ça allait marcher ou que c'était important. Mais finalement, on va former ça. Puis entre les deux guerres, on fait de la cartographie, surveillance d'incendies, on explore le nord, on surveille les pêches, le genre de choses qu'on fait. Puis dans la crise économique, ça va moins bien pour... l'aviation fait de la coupure, mais après ça, la Seconde Guerre mondiale éclate. Fait que là, évidemment, ça passe avec plusieurs personnes. Au début, il y a juste comme 4000 personnes qui sont dans l'aviation. Il y a juste 270 aéronefs, là, comme des avions. Là.
Oui.
Puis, mais à la fin de la guerre, on passe à comme, il y a 73 000 Canadiens qui sont en formation, gros escadron. On participe à la bataille d'Angleterre, jusqu'ils font le Blitzkrieg, là, ces places-là. En 1944, l'aviation, il y a 215 000 personnes qui sont membres de ça, en plus des travailleurs, puis des aviateurs, puis tout ce monde-là. Il y a 17 000 femmes qui travaillent au sein de l'ARC. Là. Mm. Moi, je me rappelle, j'ai interviewé Elsa Malek, qui est toujours vivante, là, qui est centenaire à Chipagan.
Oui.
Puis elle avait travaillé dans les usines de fabrication d'avions là, dans les années 40 à Montréal. Là. Fait que ça, c'est le genre de monde qui travaille pour l'aviation.
Là. Est-ce qu'elle est encore vivante, cette dame-là?
Oui, oui, elle est toujours vivante, elle est toujours chez eux. Oui, oui, elle est toujours là.
Ah.
Puis c'est ça. Fait que là, l'aviation, ben, ils vont prendre partie après ça, après la Seconde Guerre mondiale, à tour de la guerre de Corée. Puis ils vont aller. Il y a des bases en France, pas en Allemagne. Moi, j'ai rencontré Jean-Paul Landry. De Terry Office qui travaillait lui sur les bases militaires en Allemagne. Là. Puis après ça, ben, il va y avoir la fin de la guerre froide, puis on va participer à d'autres conflits. Puis récemment, ben, il y avait des membres qui étaient en Afghanistan là, pour le conflit en Afghanistan. Là.
Mm.
Fait, ça, c'est un peu pour l'aviation. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour parler de d'autres.
Oui, quelques minutes. Sujet, oui, là, oui, okay, allez-y.
J'ai deux infirmières aussi que durant la Première Guerre mondiale, il y a des femmes qui participent, qui vont même sur le front. Soigner les blessés. Là. Fait qu'on a une Bernadette Cormier qui était originaire de Caraquet, puis on a Évangeline Lausier qui était originaire de Tracadie, que ces deux femmes-là vont s'incorporer dans les corps médicaux. Bernadette Cormier, elle va faire ses études à Caraquet, tout ça. Elle va aller faire une formation à Boston au General Hospital du Massachusetts. Elle va rejoindre la Croix-Rouge. Elle va aller en France. Puis, elle va travailler sur un plancher jusqu'à 76 blessés graves de la Première Guerre mondiale. Fait qu'elle, elle est quand même assez proche du front. On dit qu'elle est tellement proche du front qu'elle est autant menacée de mort qu'un soldat. Fait que finalement, elle met sa vie en danger. Elle va recevoir après la guerre des médailles ou des reconnaissances là, pour sa bravoure puis l'aide qu'elle apporte envers les soldats durant la guerre.
C'est intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de femmes hein, qui ont participé.
Oui, il y en a plusieurs, oui. Puis c'est ça, elle, après ça, ben, après la guerre, ben, elle va même se rendre sur une île proche de la Sibérie là, pour aider les gens qui avaient le typhus là, tout ça. Fait que finalement, elle va faire sa vie aux États-Unis. Puis, quand elle va décéder, elle va vouloir être enterrée à Caraquet. Là. Puis, l'autre madame, c'est Évangeline Lausier. Elle est originaire de Tracadie. Elle va épouser un gars de Petit Rocher. Puis, lui, il travaillait au télégraphe à Tracadie. C'est comme ça qu'elle avait rencontré ce gars-là, Petit Rocher, qui était rendu à Tracadie. Ils vont vivre à Bathurst. Elle va devenir veuve assez jeune. Là. Je pense que lui, il se marie en 1908 ou en 1909. Puis, en 1910, il décède, là, elle devient veuve. Fait qu'après ça, elle va aller vivre aux États-Unis. Elle a une sœur qui est sœur aux États-Unis, qui est religieuse. Puis quand la Première Guerre éclate, elle est du côté des États-Unis. Il faudra attendre que les États-Unis rentrent dans la guerre pour qu'elle devienne infirmière militaire en 1917. Fait que là, elle aussi, elle va joindre la Croix-Rouge, puis elle va partir pour l'Europe. Puis on a quelques photos de elle là, qu'elle est dans les salles en France là, pour soigner les malades, un peu comme l'autre madame dans les hôpitaux militaires qui soignent les blessés des différentes batailles. Là. Puis quand la guerre va terminer, elle va sur son chemin de retour, là, ou en tout cas, elle est en Europe, elle va aller soigner aussi des malades, puis dans les hôpitaux en Monténégro, puis en Serbie, qui est des pays là, entre l'Europe puis en Europe. Là.
Et elle, Mme Lauzier, est-ce qu'elle est décédée?
Oui, oh oui, c'est, oui. C'est des gens qui étaient nés dans les années 1800, là, Première Guerre mondiale.
Ah, pour la première,
elle, oui. Elle va faire sa vie aux États-Unis, puis elle va décéder à Oakland, qui est en Californie, je pense, là, en 1968. Ces deux madames-là ont participé à la Seconde Guerre, à la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière. Elle est quand même assez proche des lignes de front pour soigner les gens qui étaient blessés.
Ah, intéressant, intéressant. C'est beau de voir qu'il y a des gens de chez nous, hein, qui ont participé, qui ont travaillé fort durant les deux guerres mondiales pour aider, bien sûr, les soldats, peu importe leur activité qu'ils avaient, là.
Oui, exactement. Puis c'est ça. Donc, le 11 novembre, il y a plusieurs différentes choses qui sont organisées. Là.
Moi, il va y avoir des cérémonies, oui.
Ben, c'est ça. Moi, je vais souvent à la salle de Tragédie, puis c'est plus proche de chez nous, mais chez Bathurst, ils en font tout le temps.
Oui.
À Caraquet, à Chipagan également. Puis à Saint-Dizor, cette année, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le monument. Le cénotaphe, je sais qu'il a été rénové. Ça a peut-être été dévoilé, là, mm-hmm. mais je sais qu'ils ont mis du temps pour restaurer le cénotaphe, qui était un petit peu désuet. Là. Fait que là, ça a tout été fait aussi cette année. Là.
Très intéressant. Merci beaucoup, Philippe.
Ben de rien,
bonne journée, oui, certainement.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!